11h midi, vos experts avec Jesse Michel.
Le trouble du spectre de l'autisme, nos experts, plaisir d'accueillir dans quelques instants le docteur Feuillarade Juliette et la psychomotricienne du Centre de ressources pour l'autisme, madame Frédérique Flèche. Elle m'en posera des questions. L'autisme, c'est quoi exactement? Quels sont les facteurs du risque? Autisme et bébé, puisque nous sommes dans une spéciale petite enfance, comme chaque mercredi. Quels sont les signes d'alerte? Vous avez des soupçons. Vous demandez quel parcours entreprendre suite à ces soupçons. Tout plein de questions au 02 62 99 2000. Nos experts répondent à toutes vos questions jusqu'à midi sur Réunion la Première.
Vos experts, vos appels au 02 62 99 2000, vos SMS au 06 92 70 2000.
Les experts de la petite enfance, et aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qu'est l'autisme et à quel âge on peut détecter les premiers signes, en tous les cas chez les bébés. Autisme et bébé, quels sont les signes d'alerte? Quels sont les facteurs de risque? Comment se déclenche l'autisme? Comment détecter donc pendant la grossesse? Est-ce que c'est possible d'ailleurs pendant la grossesse? À quel âge arrivent les premiers signes? En tous les cas, autant de questions que vous pouvez poser à nos experts. Le plaisir d'accueillir Juliette Feuillarade, vous êtes médecin, bonjour docteur.
Bonjour.
Bonjour aussi à la psychomotricienne du Centre de ressources pour l'autisme, madame Frédérique Flèche.
Bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes les deux et merci d'être venue parce que je pense que vous venez du sud en plus, non, il me semble?
De l'ouest.
De l'ouest, ça a bien roulé?
Ça va, ça va.
Ça a bien roulé ce matin, d'accord. Alors nous sommes avec nos experts et puis tout à l'heure à 11h30, docteur, nous serons dans une structure, c'est ça?
Oui.
En compagnie de Prisca et de madame Seychelles. On verra parce que ça va à mon avis illustrer tout ce qui sera dit dans cette émission puisque c'est une structure d'accueil en fait des enfants qui sont...
Une prise en charge précoce.
Voilà, la prise en charge précoce, on en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce que l'autisme, docteur? C'est quoi l'autisme?
Alors, l'autisme a changé beaucoup de définitions ces dernières années, notamment dans les critères diagnostiques, on en parlera tout à l'heure. Mais en fait, d'abord, c'est un handicap. C'est pas une maladie, c'est pas quelque chose qui va entraîner un traitement médicamenteux. C'est un handicap, c'est-à-dire ça nécessite des accompagnements éducatifs et rééducatifs, des aménagements de l'environnement. Après, depuis 2015, on parle de troubles du neurodéveloppement. En fait, l'autisme fait partie de la grande famille des troubles du neurodéveloppement dans lesquels on peut retrouver la déficience intellectuelle, l'hyperactivité et d'autres handicaps propres à l'enfance.
Donc, alors en gros, si mon enfant est un petit peu troublé, agité, etc., mais c'est pas forcément il n'est pas autiste d'office.
Non, bien sûr.
Voilà,
que non.
D'accord. Donc, c'est plusieurs signes peut-être accumulés. Donc, on va le voir de toute façon, quels sont les signes d'alerte. Mais il n'est pas autiste comme ça, d'une manière automatique, quoi, je veux dire.
Il n'y a pas de signes spécifique à l'autisme,
c'est un ensemble
de symptômes qui sont présents depuis la petite enfance, même si parfois ils peuvent être pleinement visibles qu'au début de l'adolescence ou qu'à l'âge adulte. Mais il y avait forcément des signes dans la petite enfance qui n'ont peut-être pas été vus.
Et si vous voulez bien, on va vraiment s'appuyer sur ces signes-là, puisque nous sommes dans une émission petite enfance. La psychomotricienne du Centre de ressources pour l'autisme, Frédérique Flèche, en quoi consistent vos missions psychomotriciennes?
Alors, psychomotricienne, on va s'intéresser à la motricité, à la manière de la mettre en œuvre, l'adresse, la motricité fine, la motricité globale, l'équilibre. Et puis, il y a tout un pan de la psychomotricité qui est la sensorialité. Et là, qui est vraiment très, très en avant et au premier plan dans le trouble du spectre de l'autisme. Parce qu'on a bien souvent des particularités au niveau sensoriel.
D'accord. Donc, on va voir tout ça effectivement aussi également dans l'émission. Et si
avec
vous avez
plaisir.
Des questions à poser à Frédérique Flèche, psychomotricienne du Centre de ressources pour l'autisme, n'hésitez pas au 02 62 99 2000. Juste un petit mot sur le Centre de ressources pour l'autisme, pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'on y trouve?
Alors, on y trouve deux pôles. Un pôle enfant où docteur Feuillarade est chef de pôle. Et puis un pôle adulte. Donc, au pôle enfant, on va diagnostiquer des enfants de 6 à 18
Oui, de 6 à 18 et les cas complexes, c'est-à-dire des enfants qui peuvent présenter des déficiences sensorielles, des pathologies génétiques particulières avant 6 ans.
Avant 6 ans, donc les tout petits finalement.
Les tout petits qui ont des Des cas complexes, on appelle
des
ça.
Cas, ouais, des cas complexes. Alors, comment diagnostiquer l'autisme? Ça, c'est pas évident, hein, à mon avis. Hein. C'est des parents qui se posent des questions. Alors, quelquefois, bon, certains parents paniquent un petit peu parce que, bien souvent, alors on a des idées comme ça reçues, hein, vous le savez, hein, une manière dans la population. Quand on va demander, pour vous, c'est quoi le signe, en fait, d'un enfant autiste? Ah, il ne regarde pas où en face. Il est toujours avec un regard un petit peu à droite, à gauche, etc. Et il ne peut pas faire ce face-à-face au niveau des yeux. C'est une idée reçue ou c'est une vraie idée?
C'est une vraie idée.
C'est pas parce que maman il regarde pas où en face que il est autiste aussi. Oui. Quoi, voilà, c'est ça. Donc quels sont les voilà comment diagnostiquer en fait, docteur? C'est compliqué. Hein.
Alors et c'est pas parce qu'il vous regarde dans les yeux que qu'il est pas autiste non plus. En fait, c'est très 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 codifié. Hein. Il nous faut ce qu'on appelle des signes sociaux et des signes non sociaux. Donc dans les signes sociaux, on va avoir un trouble de l'interaction. C'est-à-dire une difficulté à développer, à maintenir, à initier des interactions sociales, des difficultés à avoir une réciprocité émotionnelle, oui. À partager des choses, à partager son plaisir, à comprendre les blagues, à avoir un déficit en communication non verbale, du mal à regarder dans les yeux, du mal à parler avec ses mains, avoir une façon de parler, on appelle de la prosodie du langage, qui peut être particulière. Donc ça, c'est des signes qu'on appelle sociaux. Après, on a des signes non sociaux qui vont être tout ce qui va être comportement restreint et répétitif, un intérêt pour tout ce qui est immuable, une forme de rigidité de fonctionnement, des intérêts qui peuvent être particuliers, qui sont particuliers soit par leur intensité, c'est-à-dire ça peut être un intérêt qui est particulier, par exemple un enfant qui aime les cartes Pokémon, tous les enfants peuvent aimer les cartes Pokémon, mais là ça va devenir envahissant, ou alors c'est des intérêts qui peuvent être étranges, ça peut être des intérêts pour par exemple les plaques d'immatriculation, les éoliennes, les chiffres, mais d'une façon qui est envahissante. Et je vais laisser Frédéric parler des particularités sensorielles dans les critères diagnostiques.
Mmh. Oui,
alors,
Frédéric.
Les particularités sensorielles, très très classiquement, on peut avoir des hypersensibilités, c'est-à-dire que l'enfant perçoit trop trop fort le monde. C'est-à-dire, classiquement, nous, ce qui s'image bien pour nous, c'est-à-dire quelqu'un qui va entendre un bruit très très lointain, il l'entend comme si c'était très proche.
Oui.
Donc forcément, un petit bruit à côté, ça va être assourdissant. Ça, c'est une hypersensibilité auditive. Et on voit quand même de plus en plus des gens se promener avec des casques anti-bruit. Donc, c'est pour lutter contre cette hypersensibilité auditive. Parce que si vous n'entendez que ça, vous ne pouvez pas être disponible au reste.
Et on a souvent, hein, chez les petits d'ailleurs, un comportement suite à ça aussi. Le moindre petit bruit, c'est un comportement qui il va exploser. Et là, le parent, il se demande, mais c'est juste un tout petit bruit, finalement, qu'est-ce qui se passe?
Voilà.
Alors, il va partir dans la colère, il va partir en crise, quasiment. Enfin, je ne sais pas si j'ai le bon terme, docteur, mais voilà, donc c'est ça qu'on...
En fait, c'est tout ce qui est sensation, c'est un apprentissage. L'enfant, il n'est pas en sachant que ça, c'est le bruit des doigts qui claquent. Il faut qu'il l'apprenne. Et quand on a une hypersensibilité à ce son, c'est difficile d'apprendre ça. Donc, c'est difficile de se rassurer avec son monde. Mmh. Et puis, on a les hyposensibilités aussi, où c'est des enfants qui ne vont pas suffisamment sentir, percevoir le monde environnant et qui peuvent passer complètement à côté de leur monde. Donc, ils ne sont pas tellement intéressés.
D'accord, c'est dans la bulle.
Voilà.
On dit souvent qu'ils sont dans leur bulle. Mmh. C'est peut-être là, alors, c'est pas l'image de la bulle.
Voilà. Oui. En fait, c'est toujours multifactoriel.
Hein. Oui.
Mais on peut avoir aussi des enfants qui sentent pas assez leur monde, mais ça leur va pas. Et ils vont chercher l'information.
D'accord.
Du coup, s'ils sentent pas assez leur corps, ils vont s'agiter pour bien sentir leur corps. S'ils entendent pas assez, ils vont faire beaucoup de bruit pour entendre mieux. Du coup, on peut avoir des comportements qui peuvent être un peu curieux, mais parce qu'ils ont besoin de ces informations-là.
Des comportements curieux, mais qui s'expliquent.
Complètement.
Voilà, ce qui s'explique. On va avoir Laure pour une question à nos experts dans quelques instants. On va partir au standard 02 62 99 2000. Nous sommes dans les experts de la petite enfance et plaisir d'accueillir donc Juliette Flugarade. Donc là, j'ai appris, vous êtes chef de pôle aussi, hein, médecin, chef de pôle au centre de ressources pour l'autisme et la psychomotricienne du centre de ressources pour l'autisme, Madame Frédéric Flèche. Donc à votre écoute, 02 62 99 2000.
11h midi, vos experts sont sur la première.
Et le plaisir d'accueillir Laure, bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour Laure, on vous écoute.
Voilà, alors j'ai une question, c'est mon enfant qui a 4 ans, il a fait sa rentrée...
Alors on n'entend pas très très bien, il a quel âge votre enfant ?
Il a 4 ans.
4 ans, ah ça y est, on entend mieux là, oui.
Voilà.
Allez-y.
Donc l'année dernière il est rentré en réception, et donc il était propre à la rentrée jusqu'à les vacances de janvier, et maintenant de janvier en présence, il ne veut plus aller aux toilettes concernant la selle.
D'accord.
Alors, et donc, enfin, la maîtresse ne connaissait pas pourquoi il faisait ça. Elle pensait que c'était lui-même qui refusait d'aller aux toilettes, alors qu'il en fait bien pour faire le pipi. Mais au niveau de la selle, il ne veut pas du tout.
D'accord. Alors j'essaie de résumer pour le docteur et puis et Frédéric, la psychomotricienne. Donc l'enfant de Laure hein, qui était propre à la rentrée, hein, c'est ça, en petite section, hein, c'est ça. Est arrivé des grandes vacances de décembre et à ce jour, il ne veut plus aller aux toilettes uniquement pour la selle, c'est ça. Est-ce que et là vous vous demandez est-ce que c'est un signe?
Oui, tout à fait.
Docteur.
Non. Enfin là, nous on parle d'un trouble du spectre de l'autisme, donc c'est un trouble de l'interaction sociale, de la communication et un pattern de comportement restreint et répétitif. Là, des particularités du contrôle sphinctérien ne font pas partie des signes de diagnostic.
Donc ça fait pas partie des signes, Laure.
D'accord, parce que je vois qu'au niveau de l'école, on m'a orienté vers le médecin de la PMI. La PMI m'a orienté directement vers l'OTAM, et là, bah, je me suis retrouvée des démarches en fait.
Donc là, vous entreprenez quelle démarche ?
Ben là, il a eu une première visite en France et il voit une orthophoniste et prochainement, il doit refaire une visite au CAMS.
Donc là, elle est sur un parcours. Quel parcours exactement là ?
Ben le CAMS. Hein,
en fait, le médecin de la PMI, justement, soupçonne un trouble autistique.
Alors, on a vraiment un souci, on vous entend vraiment pas très clairement en fait, hein, Laura. Alors, je sais pas si c'est le fait d'être peut-être trop proche de votre combiné.
D'accord, vous m'entendez mieux ?
Là, c'est un petit peu plus clair, effectivement. Donc là, vous aviez dit, donc, vous êtes sur le parcours. Alors, quelle personne vous devez voir ?
Je suis à la deuxième visite de CAMS au mois de mai pour voir son diagnostic ou pas, s'il a un trouble.
Alors après, vous venez aussi de parler d'une orientation vers une orthophoniste. Hein. Alors, j'imagine que s'il y a une orientation vers une orphoniste, c'est qu'il y a des troubles de la communication également, hein, que ça ne s'arrête pas aux troubles sphinctériens. Et l'orientation au CAMS est tout à fait adaptée. Hein. C'est des spécialistes de la petite enfance et ils seront.
Alors juste pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi CAMS ?
Le Centre d'action médico-sociale précoce. D'accord. Ils s'occupent des enfants de moins de 6 ans. Ils prennent, ils suivent aussi les anciens prématurés. Et ils peuvent faire des diagnostics de troubles du spectre de l'autisme, mais orientés sur d'autres troubles du neurodéveloppement aussi.
D'accord. Donc là, vous allez sur ce parcours-là. Alors, apparemment, elle va sur ce.
Oui.
Ce
et le CAMS pourront faire la part des choses entre qu'est-ce qui peut relever d'un trouble du neurodéveloppement et qu'est-ce qui peut relever d'autres choses.
Oui. Ouais. À part ces signes-là, qu'est-ce que vous avez pu relever là aussi chez l'enfant, Laure?
Bah, j'ai remarqué aussi qu'il a souvent des mimiques quand il est content, il n'arrive pas à mettre de mots, donc il va mettre ses mains au niveau du bruit des motos, il ne supporte pas du tout.
Il ne supporte pas le bruit des motos ?
Tout à fait.
Et quelle réaction il a face à ces bruits ?
En fait, il court se réfugier dans un endroit où vraiment il n'entend plus, quoi.
Ouais. Là, on parlait, vous voyez, du son. Hein, de...
Voilà, tout à fait. Alors, ouais. c'est très délicat à la radio. Il faut vraiment rencontrer l'enfant pour pouvoir avoir des hypothèses diagnostiques. Parce que, évidemment, là, on est sur une lecture de comportement. Mais le comportement, il a lieu pour certaines raisons. Et c'est à nous, donc équipe formée, de trouver pourquoi ces comportements ont lieu. Et surtout dans l'autisme, il peut, c'est toute la sphère de la relation, de la communication qui peine à se mettre en route. Donc le plaisir partagé, rigoler ensemble, regarder un avion au loin ensemble, imiter, l'imitation qui peut peiner à se mettre en route, toutes ces choses-là qui font que on est des êtres sociaux, où on fait des choses ensemble et on prend plaisir à faire des choses ensemble. Voilà, c'est ça qui peine à se mettre en route dans l'autisme. Donc, Il peut y avoir en plus, effectivement, d'autres choses qui viennent se greffer, parce qu'une personne qui a un trouble du spectre de l'autisme, ben, des fois, n'a pas que un trouble du spectre de l'autisme. Elle peut être aussi joyeuse, elle peut être aussi déprimée, elle peut être aussi... Voilà, ça ne résume pas une identité. Donc, à nous de faire aussi un peu la part des choses entre... ce que cet enfant vit dans sa vie de tous les jours, et puis l'aspect neurodéveloppemental, donc comment il se développe au niveau neuro-développemental. Donc là, on ne va pas pouvoir vous donner plus d'indications, si ce n'est vous dire allez bien à ces rendez-vous de CAMS qui pourront vous orienter vers une voie ou une autre, et puis aider au mieux votre petit bonhomme qui a l'air de vivre des trucs pas très très sympathiques.
Ouais. Dans cette émission, d'ailleurs, on va donner des conseils aussi aux parents, si vous en avez, hein, pour pouvoir... Parce que j'imagine, en tant que parent, c'est compliqué. Hein, je me mets avec les parents, moi, du coup, hein, dans le même groupe, mais on n'est pas outillés. Enfin, on n'est pas outillés, on se pose des questions, on a beaucoup de doutes, on soupçonne certaines choses, on n'a pas forcément les réponses en temps et en heure, donc on s'inquiète. Nous aussi, là, c'est la gestion des émotions qui est un petit peu compliquée face à tout ça. Donc voilà, est-ce que là, en tout cas, les parents, j'imagine, dans des structures hein, telles qu'on ira tout à l'heure, et puis le CAMS, les parents sont outillés, on leur donne quand même des petits outils pour le quotidien.
Tout à fait. Et puis, il y a quelque chose qui est tout à fait fondamental à savoir, et il faut impérativement battre en brèche cette idée-là, c'est que les parents n'y sont pour rien. Dans le trouble du spectre de l'autisme, c'est neurodéveloppemental. Les parents n'ont pas de responsabilité éducative. Il ne faut pas se culpabiliser. Mais quand on note des particularités, il faut effectivement se retrousser les manches et puis aller chercher conseil auprès des professionnels qui, eux, ont appris et ont l'expérience.
Mm-hmm. Laure, vous avez entendu ce message important ?
Tout à fait.
Voilà. OK ?
Merci.
Donc, pour l'instant, il faut suivre les consultations, aller au rendez-vous. Et j'imagine qu'il y a quand même... On voit tout ça et on observe l'enfant sur une certaine période. Ce n'est pas non plus un rendez-vous d'une heure, un docteur qui va faire que c'est bon, j'ai diagnostiqué.
Proposer le diagnostic du trouble du spectre de l'autisme. Oui. Ce qu'on n'a pas dit en dehors des signes, quand même, donc des signes sociaux, des signes non sociaux, il faut qu'il y ait un handicap sur la vie sociale, la vie familiale, la vie scolaire de l'enfant. C'est indispensable pour le diagnostic.
Donc diagnostic, effectivement. Et ça se met sur combien de temps on peut diagnostiquer ? Enfin, le diagnostic, il est posé au bout de combien de temps ?
Dans les recommandations, il faut que ce soit un diagnostic qui soit pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'un médecin tout seul ne peut pas poser le diagnostic.
Mm-hmm. On va le voir, si vous voulez bien, dans quelques instants, puisqu'on va rejoindre nos téléspectateurs. À tout de suite.
11h midi, vos experts avec Jessie Michel.
Et c'est mercredi, les experts de la petite enfance, c'est votre nouveau rendez-vous hein, dans les experts. Et le plaisir d'accueillir aujourd'hui Juliette Feuillarade, elle est chef de pôle au centre de ressources pour l'autisme, donc médecin, et puis la psychomotricienne du centre de ressources pour l'autisme, Madame Frédérique Flèche. Merci à toutes les deux. On redit bonjour, puisque cette fois ce sont nos téléspectateurs qui nous ont rejoints dans les experts de la petite enfance. Et aujourd'hui, le trouble du spectre de l'autisme, l'enfant autiste. Alors on l'a vu, hein, l'autisme, la définition, autisme et bébé, les signes d'alerte, en tous les cas on va continuer d'en parler, les facteurs de risque aussi également, et puis bien sûr il y a vos questions et vos témoignages au standard de la première au 02 62 99 2000.
Vos experts, vos appels au 02 62 99 2000, vos SMS au 06 92 70 2000.
Alors on l'a vu docteur, les signes, vous avez dit les signes sociaux, les signes non sociaux, les facteurs de risque, donc vous parliez aussi de handicap. Voilà, donc on va continuer ce qu'on a dit un petit peu en radio, c'est la suite. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de précision sur ce côté handicap, en fait ?
Ah, sur le côté handicap, oui. Et puis Frédéric pourra aussi bien en parler avec moi. Le handicap, en fait, c'est le principe de dire qu'il n'y a pas de traitement médicamenteux et qu'il faut adapter l'environnement et que les prises en charge, en fait, sont des prises en charge éducatives et rééducatives. Voilà, qu'il n'y aura pas de solution miracle, mais que c'est un accompagnement et un aménagement de la vie de l'enfant, de sa scolarité, de sa communication. Frédéric, si tu as autre chose.
Oui, bien sûr. Frédéric.
Et puis, alors, moi, j'ai la chance aussi de travailler au CRA adulte. Et donc, je rencontre des adultes qui, pour certains, ont une insertion sociale tout à fait intéressante. Mais ça garde un coût énergique très, très fort. Donc, le handicap ne se voit pas. On dit que c'est un handicap invisible. Mais de l'intérieur de la personne TSA, c'est un coût très, très important. Donc, il faut parfois, et ils le savent, ils aménagent eux-mêmes leur durée de temps de travail, pour pouvoir faire face à tout ça. Donc, pour ceux qui ont la plus grande facilité à s'insérer, il reste quand même une part de handicap.
Oui.
Et pour les plus jeunes, effectivement, à nous, la société, de leur proposer une société qui va les rendre le moins handicapés possible, c'est-à-dire le moins gênés par leurs propres particularités.
Mmh. Alors, pour la petite enfance, quels sont les signes pour les enfants de 0 à 6 mois, on va dire, et même avant, est-ce qu'on peut détecter les premiers signes, docteur ? Ça veut dire la grossesse,
alors,
en amont.
Juste pour poser les choses, on ne peut pas faire de diagnostic de certitude avant 3 ans. On fait des diagnostics à partir de 18 mois, on a une suspicion de développement d'un trouble du spectre de l'autisme à partir de 18 mois, diagnostic qu'on confirme à 3 ans. Avant 18 mois, on ne pose pas de diagnostic. Ça n'empêche pas de faire des prises en charge, bien entendu. Avant 18 mois, il peut se passer beaucoup de choses et on peut avoir effectivement des signes très précoces. Typiquement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur l'absence de regard, l'absence de sourire-réponse, l'absence de babillage. L'absence de plaisir partagé, de découverte sensorimotrice de son environnement. Quoi d'autre ? Le signe qui nous parle le plus à nous, c'est vraiment c'est sur les retards de langage et le retard d'interaction sociale.
D'accord. Parce qu'on a des bébés qui sont complètement, là aussi, introvertis, ils n'ont pas forcément... Enfin, ils ont leur petit caractère, quoi. Donc, il faut faire attention. C'est-à-dire, les petits bébés qui n'ont pas forcément envie de sourire parce qu'ils sont comme ça, de nature. Attention de ne pas tomber non plus, vous voyez, dans de il sourit pas, oh, il me répond pas.
Alors il faut que ça soit persistant évidemment dans le temps. Après le sourire social, c'est une sorte de sourire réflexe. C'est un réflexe de l'être humain. Donc c'est quelque chose qui est quand même présent chez les bébés, alors qu'ils vont pas développer tous au même moment. Mais avant 6 mois, un enfant doit sourire quand on lui sourit.
Et s'il n'a pas ce réflexe-là, vous interpelle, vous, en tout cas.
Nous, ça nous interpelle et ça nous fait, sur le développement précoce. Voilà, on va regarder comment est son regard, comment il babille, comment il rigole, comment il bouge, ce genre de choses.
Mm-hmm. En tout cas, il faut faire effectivement très attention à ne pas tout de suite dire, mon Dieu, il est autiste, panique à bord, mais il faut s'en préoccuper parce que peut-être, tout simplement, il a une mauvaise vision. Et du coup, il va falloir lui mettre des lunettes pour qu'il voit mieux. Peut-être qu'il n'entend pas bien, mais parce que ses oreilles ne fonctionnent pas bien. Peut-être qu'il a mal quelque part et qu'il n'arrive pas à déployer tout ce qu'il devrait déployer. Donc, quand ça ne se met pas en route, on ne va pas dire de suite, attention, c'est un TSA. Non, non. Mais on va dire, il se passe quelque chose d'atypique pour ce bébé et regardons de plus près.
Regardons de plus près, ça interpelle.
Voilà.
Ouais. Il faut en savoir un petit peu plus. On va dire. On creuse, quoi.
On creuse.
Ouais. D'ailleurs, Frédéric, il est important, donc, en tant que parent, des enfants, des tout-petits-enfants qui sont atteints du trouble du spectre de l'autisme, de consacrer peut-être plus de moments de jeu, de face-à-face ou plus d'activités, et lesquelles, éventuellement, parce qu'on a des parents qui nous regardent et qui nous écoutent. Comment on peut amener, c'est pas évident, un quotidien comme ça.
Alors, c'est d'autant...
Avec quelle activité ?
D'autant pas évident, je pense que le maître mot, c'est qu'il faut se faire accompagner par des professionnels, parce qu'il faut savoir qu'un enfant TSA ne va pas être dans une interaction typique. Il n'est pas dans l'intuition de cette interaction. Donc, le parent va proposer des jeux, des guilis, des coucous cachés,
des choses comme ça.
Il va stimuler, mais l'enfant ne va pas réagir comme on serait en droit de s'attendre. Et du coup, ça peut déprimer le parent. Donc, il ne faut pas se déprimer. Donc, mais ça, c'est facile à dire, c'est plus facile, c'est moins facile à faire. Du coup, il faut se faire accompagner et y aller vraiment petit à petit. Donc, oui, on continue à faire des coucous cachés, mais on va peut-être, si on voit qu'il est plus attentif à ce qui est visuel ou auditif, ben, on va présenter plutôt un hocher auditif ou quelque chose de visuel pour attirer son attention.
Voilà. Et ça, il faut le faire très, très régulièrement. C'est conseillé aux parents de stimuler l'enfant de manière très, très régulière.
Il faut stimuler, mais pas n'importe comment. Parce que si vous avez envie de stimuler votre enfant, parce que vous avez vu qu'il réagit fort, il réagit pour vous bien à ce qui est sonore, et que vous présentez beaucoup, beaucoup de choses sonores, ça peut aussi... avoir un effet négatif, oui. Voilà. Et du coup, ne pas entraîner une interaction. Donc, vraiment, c'est compliqué. Quand tout se passe classiquement, ça se fait et puis on ne se pose pas la question.
Oui.
Avec un enfant TSA, il faut se poser des questions et à quel moment je le laisse respirer, à quel moment je vais le solliciter et dans quelles conditions je le mets pour qu'il soit bien, pour que lui soit dans le confort et que ma sollicitation soit captable par lui.
Ouais, pas facile, hein.
Pas facile. Hein, donc le métier de parent d'enfant TSA est vraiment un métier difficile.
Ah, j'aime bien le métier de parent parce que c'est en éteint. Et à plein temps.
Voilà, et donc ouais. Il faut vraiment se faire aider, conseiller. Et voilà. Et essayer de ne pas se déprimer.
Docteur, un petit mot là-dessus, justement, sur
alors,
les stimuli.
Là, on est sur un diagnostic, quand le diagnostic est posé.
Oui.
Sur la toute petite enfance, voilà, avoir des diagnostics à 18 mois, c'est quand même assez rare. Mais ça n'empêche qu'on peut mettre des choses en place, même sans savoir s'il y a un trouble du spectre de l'autisme ou pas. Après, ce que disait Frédéric est tout à fait juste. On vérifie toujours qu'il n'y ait pas de déficience sensorielle. Enfin, ça, c'est la base. Si un enfant ne se met pas à parler, il faut vérifier qu'il puisse bien entendre, évidemment. Mais une fois qu'on a fait tout ça, si on s'aperçoit qu'il y a des difficultés d'interaction, de communication, c'est de pouvoir jouer avec lui et de consulter les professionnels qui peuvent orienter justement sur les prises en charge les plus adaptées. Ça peut être de l'orthophonie, ça peut être de la psychomotricité, ça peut être des prises en charge éducatives.
Mais en général, il est entouré, hein, de toute façon, de ces professions-là. Hein. On le voit au quotidien, hein, les enfants et les parents pris à droite, à gauche avec des rendez-vous orthophonistes et autres. Il y a vraiment une équipe pluridisciplinaire qui se met en place du coup autour du petit enfant.
Oui, alors...
Quand le diagnostic est posé, ça y est, donc il y a toute une équipe qui
là,
se...
Là, on imagine que c'est facile quand vous le dites. C'est pas aussi facile que ça pour les parents, notamment pour trouver une rééducation en orthophonie. Ça peut être très, très compliqué pour les parents, hein, puisque je pense qu'il n'y a pas suffisamment de professionnels sur l'île. Donc, trouver une orthophoniste. Puis après, on parle de professions qui ne sont pas remboursées. Hein, la psychomotricité et les éducateurs ne sont pas remboursés. Donc, il faut monter des dossiers auprès de la MDPH pour avoir les financements, pour trouver les professionnels. Donc, ce n'est pas si évident que ça. Hein. C'est vraiment, comme dit Frédéric, un métier de parent qui nécessite quand même une énergie très importante.
Ouais, effectivement. 02 62 99 2000. On va se rendre dans quelques instants. Vous allez nous faire une petite présentation, en tous les cas, de ce lieu, docteur Furiane. On va aller dans un centre, c'est ça, d'accueil des petits-enfants. Donc, c'est une prise en charge précoce. Ça veut dire quoi, la prise en charge précoce?
Alors, la prise en charge précoce, c'est les recommandations d'une prise en charge qui peut être plus intensive avant 6 ans, notamment pour tout ce qui va être mise en place d'outils de communication, pour pouvoir interagir, en fait. Donc, c'est à Clairejoie. Mais il y en a plusieurs sur l'île. Hein, on appelle ça des CESAD, troubles du spectre de l'autisme précoce. Ça existe aussi chez les plus grands, les CESAD scolaires. Ou pareil.
Donc
en
on
fait...
va aller voir un petit peu comment ça fonctionne, c'est ça, au niveau de l'accueil, comment ça se passe. Normalement, nous sommes en direct avec Prisca. Bonjour Prisca. Ah, on a un petit problème de son parce que j'ai pas de retour en tout cas de son. Je n'ai pas de
son. Peut-être par ici, là vous nous entendez mieux.
Ça y est, très bien.
Vous nous entendez mieux, Jessie? Ça va? Voilà, on est là, on est à La Saline, on est avec cette association, avec vos experts sur le terrain, l'association Clairejoie. Il y a Michael et Aurélie qui nous attendent ce matin. Aurélie, Quel est le rôle de votre association, Claire Joie ?
Bonjour.
Bonjour.
Donc, le rôle de notre association, pardon, ça me gêne un peu.
Vous inquiétez pas.
Et on est là. Donc d'accompagner les enfants en situation de handicap, que ça soit donc du handicap lié à la déficience intellectuelle ou à l'autisme. Donc aujourd'hui, donc nous allons plutôt effectivement nous attacher à l'autisme. Donc nous avons donc des services qui interviennent donc sur le secteur ouest, et nous avons effectivement le centre ressources autisme qui diagnostique l'autisme sur l'ensemble du département de la Réunion. C'est pour ça que vous avez aussi nos collaborateurs en plateau.
Oui.
Je continue sur l'association.
Nous avons croisé justement les enfants et les parents qui étaient pris en charge ce matin.
En effet, donc nous accueillons effectivement donc sur site donc des enfants donc pour certains d'entre eux entre 3 donc et 20 ans, d'autres qui sont plutôt sur du 6 14 6 16 ou 6 17, et nous avons différents services qui sont éparpillés sur l'ensemble du territoire, et notamment des dispositifs intégrés dans des écoles, dans des collèges, etc. Donc le but est d'intervenir sur les différents lieux de vie de ces enfants.
L'accompagnement continue. Et vous, Michael, vous êtes chef de service hein, sur ce site. Quel est votre rôle ?
Alors moi, je suis chef de service des CSA de TSA de l'association Claire Joie. Mon rôle, c'est de faire en sorte que les professionnels interviennent dans tous ces services dans des conditions les plus optimales possibles. Et actuellement, on est dans les locaux du CSA de Précoce. C'est un CSA qui accompagne 14 enfants de 3 à 6 ans pendant une durée de 3 années.
Et parlez-nous de cette expérience expérimentale, on va dire, Socle.
Oui, alors le service Socle, c'est un service expérimental qui est financé sur une année, qui va nous permettre d'accompagner pendant 2 fois 6 mois 8 familles dans 3 domaines d'accompagnement, à la fois d'intervenir auprès des rééducateurs sur nos spécificités TSA, de l'autisme, intervenir auprès des écoles et également intervenir auprès des familles pour leur permettre de mieux appréhender l'autisme de leur enfant.
Oui. Vous allez faire le bilan de cette
expérience. Alors on s'apprête à faire un bilan intermédiaire de cette expérience, et puis il y a 8 autres familles qui vont commencer pour les 6 prochains mois d'accompagnement pour cette expérimentation.
Donc on peut dire que c'est une belle expérience à renouveler dans le temps.
C'est une expérience qu'on aimerait pérenniser dans le temps, parce que c'est une expérience qui fait tampon entre l'annonce diagnostique et le démarrage de l'accompagnement par un service de type CESAD.
À vous les experts en studio, merci. Merci Aurélie, merci Michael.
Merci à vous.
Merci, merci. Puis ben, un énorme bravo à toutes ces équipes, bien sûr, qui sont là autour de l'enfant. Hein. Et, alors nous sommes, je vous le rappelle, ici avec Dr Feuillarade Juliette, hein, donc chef de pôle au Centre de ressources pour l'autisme. Madame Frédérique Flèche, elle est psychomotricienne là aussi du Centre de ressources pour l'autisme. Si vous avez des questions ou standards, des témoignages à nous apporter aussi également pour les autres familles, 02 62 99 2000. Nous sommes dans les experts de la petite enfance. Christina est avec nous de Sainte-Marie. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Christina, bienvenue, on vous écoute.
Bonjour. Je vous ai dit parce que moi je suis enseignante donc en CE1, j'ai un CE1 à Sainte-Marie.
Vous êtes enseignante.
Et j'ai un enfant qui a des troubles autistiques. Voilà, et en fait, j'écoutais le docteur qui disait qu'il fallait accompagner les parents. Le problème, c'est qu'en fait, les parents, souvent, ils sont dans le déni un petit peu. Ils n'acceptent pas forcément cet handicap-là, en fait. Et moi, je suis un petit peu confrontée à ça. En fait, les parents n'arrivent pas à voir le problème autistique de leur enfant. Et je me sens un petit peu démunie parce que je me bats toute seule en classe avec cet enfant-là. Et à côté, les parents, ils pensent que c'est autre chose. Et puis, voilà quoi. C'est compliqué.
Alors, docteur.
Alors oui, ça arrive, mais en même temps, on peut comprendre ses parents, faire face au handicap.
Est-ce que c'est un déni ou c'est un manque d'information ou... Enfin, je sais pas.
C'est peut-être
un déni parce qu'il n'y a pas d'information, il y a un manque de connaissances peut-être.
Je pense qu'avant tout, c'est une souffrance, en fait.
Oui, aussi.
Et ces parents-là, en fait, C'est dur pour eux de voir que leur enfant est pas comme tous les autres enfants qu'ils voient à l'école. Donc accepter le handicap d'un enfant, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Chaque parent a son rythme. Alors je comprends que ça puisse mettre en difficulté les équipes enseignantes, mais comme on l'a dit, en plus c'est un trouble du neurodéveloppement, donc c'est des signes qui sont pas présents d'un coup. C'est vraiment sur l'évolution de l'enfant. Et il y a des parents, oui, qui peuvent mettre plus de temps à accepter ce diagnostic qui est très, très difficile.
Ouais. Il a été diagnostiqué, l'enfant, Christina ? Il a été diagnostiqué ?
Pardon ?
Il a été diagnostiqué ?
Non, justement, parce qu'ils n'ont pas encore fait le nécessaire. En fait, la grande sœur est autiste. Et pour eux, le petit... voilà, c'est peut-être qu'eux, ils se rendent compte que c'est moins, il a pas les mêmes signes, etc. Mais il a vraiment des troubles autistiques. Enfin, nous, on le voit dans l'équipe enseignante, hein, on l'a vu en maternelle. On est sûr que c'est ça, en fait. Mais pour eux, la grande sœur est autiste, mais lui, c'est pas possible qu'il soit autiste, en fait. Non, c'est autre chose et il faut attendre, etc. Ils n'ont pas fait les démarches encore.
Alors, on peut pas les forcer à faire les démarches et malgré tout, ça reste une évaluation qu'il va falloir faire d'un point de vue pluridisciplinaire. Donc ayant déjà en plus une enfant qui présente un trouble du spectre de l'autisme, on comprend que ça soit dur de reprendre tout ce parcours du combattant.
Là où c'est intéressant, je vais mettre le doigt dessus, c'est-à-dire qu'en fait, la sœur, donc qui est autiste, elle a des signes. Et là, donc ce petit garçon, je crois que c'est un petit garçon, il a pas forcément les mêmes signes. Donc, au niveau des enfants, ça peut changer comme ça. C'est pas que des signes comme ça figés. Ça peut changer en fonction de.
C'est pour ça que ça s'appelle un spectre, en fait. Voilà, c'est vraiment cette notion de spectre. C'est-à-dire que chaque enfant qui présente un trouble du spectre de l'autisme va l'exprimer d'une façon différente. On parlait de difficulté d'interaction sociale. On imagine souvent qu'un enfant avec un TSA va se désintéresser de l'interaction sociale. C'est pas du tout le cas, c'est qu'il est inadapté d'un point de vue de l'interaction sociale. Il peut aller au contraire trop au contact. Oui. Il peut avoir une absence de distance sociale, ce genre de choses. Donc vraiment, on peut exprimer une même entité de symptômes qu'on appelle un trouble de l'interaction sociale d'une façon qui est très 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 différente.
Oui.
Donc du coup, en fait, chaque enfant qui a un TSA va être différent d'un autre enfant TSA.
Donc là, effectivement, peut-être faire comprendre aux parents que c'est pas parce qu'ils présentent des signes qui sont différents de la sœur que ce n'est pas aussi une possible réalité.
Sincèrement, pour une équipe enseignante, je ne m'avancerai pas sur les pistes diagnostiques. Je parlerai vraiment de ce qui est factuel.
Ouais.
On a ça comme difficulté à l'école. Il y a un trouble du langage. Il comprend pas ce qu'on lui dit. Il parle pas. Voilà, sur qu'est-ce qui se passe d'un point de vue factuel et vers qui on peut orienter. Vers la PMI, à cause de... mais ne surtout pas s'avancer sur une éventualité diagnostique. Vraiment, rester sur la problématique liée à l'école.
Voilà, Christina.
Oui, merci beaucoup.
À bientôt, merci, bonne semaine. Au revoir. Oui, petite précision de Frédéric Flèche.
Juste parce que je voudrais juste préciser le mot spectre. En fait, parfois, c'est compris comme le fantôme, le spectre. Et pas du tout. En fait, c'est le spectre de l'arc-en-ciel. De toute la lumière qui passe à travers le verre et qui défracte en plein de couleurs.
Ouais.
Donc, si on se dit que l'autisme, ça peut avoir toutes ces couleurs-là, donc toutes ces apparences-là, c'est bien sûr on a des grands domaines et à l'intérieur de ces domaines, il y a plein de façons de s'illustrer. Donc, effectivement, on peut avoir et un enfant qui n'a pas de possibilités d'oraliser, donc il ne va pas parler. Jusqu'à l'autre bout du spectre, on peut avoir des docteurs en philosophie. Voilà. Donc effectivement, entre la sœur et le frère, il peut y avoir des couleurs tout à fait différentes dans le spectre, que ce soit au niveau de la communication ou des intérêts restreints.
Et alors, une multitude, du coup, de variétés, enfin, de variantes possibles au sein de cet arc-en-ciel-là, en gros, quoi.
Tout à fait.
Ouais. Donc, c'est très bien imagé, on comprend mieux la notion de spectre, en tout
cas. Voilà. Ouais. Et en plus, comme ce sont des êtres humains qui ne sont pas réduits à leur spectre, ils peuvent être aussi, comme je le disais tout à l'heure, joyeux, déprimés, voilà.
Ouais. Les experts de la petite enfance, hein, nous sommes avec cette thématique, le trouble du spectre de l'autisme, en tout cas chez les tout-petits, les enfants. Sylvie est avec nous de Saint-Louis. Bonjour Sylvie.
Oui, bonjour toute l'équipe sur le plateau. Bonjour, bonjour. Les professionnels de santé qui s'occupent de ça. Enfin, c'est un très beau thème. Ça ne me touche pas personnellement, mais je m'en occupe. Parce qu'il peut arriver dans notre famille, il arrive dans les autres familles, mais il peut arriver à nous aussi, dans notre famille à nous. Mmh. Alors, moi, ma question est la suivante. Vous, étant professionnel de santé, face à des parents qui ne savent que faire à de telles situations qu'est l'autisme, que conseillez-vous ? Parce que Nina, des fois, des situations sont énormément dures. J'entends avec une dame qui a dit, moi, je voudrais savoir, qu'appelez-vous interaction sociale ? Voilà, mes questions sont les suivantes. Et merci de répondre à mes questions. C'est un très, très beau thème.
C'est gentil, Sylvie. Mais vous restez avec nous, hein, on entend ou écoute la réponse. Après, on échange.
Ne vous inquiétez pas, oui. Je vais vous écouter la réponse. Même si ça ne me concerne pas, mais énormément. Moi, j'ai des enfants et je pense aux enfants des autres. Voilà, c'est un dur problème, l'autisme.
Ça peut concerner. Merci en tout cas pour votre appel, Sylvie. Le docteur, tout d'abord, et puis après Frédéric, pour compléter, j'imagine. Alors, docteur, qu'est-ce que c'est l'interaction sociale ?
Alors là, c'est un vaste débat. Oui. Mais l'interaction sociale, en tout cas, chez l'enfant, ça va être sa capacité d'être avec l'autre, de le regarder, de lui sourire, de comprendre ses états émotionnels, de se mettre à sa place, de prendre du plaisir.
C'est un peu l'empathie, ça, non ? Mmh. Oui. Un petit peu l'empathie, oui, voilà.
Alors
oui.
Non, on appelle ça aussi la théorie de l'esprit. Oui. C'est-à-dire être capable d'avoir un autre point de vue que son propre point de vue. Ça veut dire aussi pouvoir partager des choses, offrir du réconfort, comprendre l'implicite, ce genre de choses.
Oui. Frédéric ?
Et puis les interactions, c'est ce qu'on vient de faire là toutes les trois. Donc, c'est-à-dire que vous me donnez la parole, vous me regardez, Juliette me regarde. Donc toutes les trois, on est OK pour que je prenne la parole. Ça, c'est une interaction implicite,
Et au niveau du jeu aussi, où c'est compliqué de jouer effectivement d'une manière, avec des échanges, etc. Donc les règles, comprendre que l'autre aussi a une autre manière peut-être d'eux. Ça, c'est compliqué ça.
Tout à fait. Et tout ce qui est imitation peine parfois à se mettre en route parce que le petit de l'humain, il apprend beaucoup par imitation.
Et ce qu'on appelle mimétisme aussi, il me semble.
Voilà. Ouais. Et l'enfant TSA, il ne regarde pas suffisamment et ce n'est pas vraiment son intérêt d'imiter les comportements des autres. Du coup, pour rentrer dans un jeu qui va évoluer, c'est-à-dire que si je me mets à jouer avec vous un jeu de faire semblant, vous prenez la princesse, je prends le cheval ou le chevalier, et puis on fait... Et donc vous faites quelque chose, je vais rebondir sur ce que vous proposez, et puis moi, je propose quelque chose, vous allez rebondir sur ce que je propose, et ça fait une interaction. C'est-à-dire que toutes les deux, on est d'accord pour créer quelque chose qui n'appartient ni à vous, ni à moi, mais qui nous appartient à toutes les deux. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très difficile pour une personne TSA, parce que ça s'apprend difficilement.
Oui. Ouais, c'est de partager quelque part son petit monde, en fait. Chacun a un petit monde, et puis à un moment donné, dans le jeu, dans l'interaction, il y a un partage de monde. Et ça, il a un petit peu de mal,
alors,
c'est ça ?
C'est partager son monde et faire attention à celui de l'autre.
Ouais.
Parce que partager son monde, ils y arrivent des fois très très bien. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont passionnées de... Je ne veux pas prendre l'exemple des dinosaures parce que c'est assez classique, mais des bouches d'égout.
Oui.
Donc, ils peuvent vous parler une demi-heure des bouches d'égout, mais si vous lui dites, comme c'est mon cas, j'aime les marionnettes, continue sur les bouches d'égout.
Oui.
Il va pas venir...
Dans les marionnettes, dans le monde des marionnettes.
Dans le monde des marionnettes, parce que... Oui. Voilà, donc il partage.
Oui.
Mais prendre ce que l'autre lui dit de son monde
c'est
à lui...
C'est là que, voilà.
Ouais, non,
c'est là que
par contre, si moi, je lui parle des plaques d'égout, alors là, je suis sa meilleure amie.
Marie-Noëlle de l'Étang Salé est avec nous et on va très rapidement terminer l'émission. Marie-Noëlle, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, bienvenue Marie-Noëlle, on vous écoute.
Merci. Félicitations pour ces dames, parce qu'il y a beaucoup de boulot. Je voudrais vous dire que moi j'ai eu un garçon, il y a 14 ans, maintenant il est décédé, d'autisme, et c'était très très dur. Donc je sais que mon mari, il est parti, il m'a laissée toute seule avec, Et il fallait que je me batte. Et en 92, on n'avait pas tout ce que vous avez maintenant.
À l'époque, et oui, on imagine. Ouais. Oui.
Et bon, il n'y avait pas TSA ni rien. Personne n'en voulait en crèche, que ce soit à l'école.
Marie-Noël, en tous les cas, on arrive à la fin de cette émission. Je suis vraiment désolée. Merci beaucoup en tous les cas. Et on comprend qu'avant, effectivement, il n'y avait pas les mêmes outils. Aujourd'hui, peut-être qu'ils sont vraiment plus développés qu'avant. Marie-Noël, merci. Et puis effectivement, bravo. Et bravo pour tout ce que vous faites. En tout cas, les professions médicales, on les a vues tout à l'heure avec le Centre Clairejoie. Bravo à vous les professionnels. Merci au docteur Juliette Feuillarade d'être venue nous voir. Et puis la psy co-motricienne du Centre de ressources pour l'autisme, Madame Frédérique Flèche. On aura d'autres émissions si vous êtes d'accord. Hein. Vous êtes d'accord ?
Bon,
on valide. On valide. À demain.
Au revoir.
Au revoir.